Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
C'est l'heure du journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'hiver fait son retour en avril. Les agriculteurs craignent le pire pour leur production. Soulagement pour l'Ukraine. Les États-Unis vont débloquer une enveloppe exceptionnelle de 61 milliards de dollars à Kiev. Et puis la belle saison du Stade Brestois dérange-t-elle la Ligue 1?
Un épisode de froid va s'abattre sur une bonne partie de la France.
Les températures sont 4 à 5 degrés en dessous des normales de saison selon Météo France. Les nuits les plus froides sont attendues en début de semaine. Des risques de gel sont donc à prévoir, ce qui inquiète les agriculteurs, viticulteurs ou encore arboriculteurs. Ils redoutent de perdre leur production et ont les yeux rivés sur les prévisions météo. Lucas Lobé.
Oui, c'est le cas de Pierre-Jean Laouret dans les Yvelines, par exemple. La température devrait descendre proche des 0 degrés les prochaines nuits. Il craint pour sa production de poires.
J'ai peur. Le problème, c'est que c'est vraiment la roulette russe. Ça passe ou ça casse. Sur quelques heures, on peut perdre la récolte annuelle, comme avec une averse de grêle.
Avec la chaleur précoce, les fruits se sont développés plus tôt. Un phénomène récurrent avec le réchauffement climatique. Les gelées arrivent donc à un moment encore plus sensible. Thierry Moisy, producteur de pommes en Indre-et-Loire.
2 degrés sous abri, ça peut faire du 0 jusqu'à moins 1, moins 2 dans certains fonds de vallée. On a des fruits formés qui font 5, 6, 7 mm. Si les températures descendent de trop, ils noircissent et ils tombent.
De quoi perdre une partie de sa production. Alors certains se protègent. C'est le cas d'Aurélien Esprit dans la Drôme. Il a mis en place plusieurs systèmes contre le gel.
Il existe des moyens comme des bougies anti-gel qu'on peut disposer à chaque arbre et allumer pour réchauffer l'atmosphère. On peut également mettre en place des tours anti-gel qui sont des tours avec une éolienne, une hélice qui va ramener la chaleur vers le sol.
Mais ça représente un coût important. Aurélien Esprit a dû investir 300 000 euros pour se protéger.
Un reportage de Lucas Laubert.
RMC 8h02, c'était un vote très attendu depuis des mois par l'Ukraine.
Le Congrès américain valide une nouvelle aide exceptionnelle de 61 milliards de dollars après des semaines d'intenses débats. Le président Joe Biden salue une aide cruciale au rendez-vous de l'histoire. Réaction également de Volodymyr Zelensky sur le réseau social X. Cette aide sauvera des milliers de vies. Cette enveloppe, Ameline Lavjin, l'Ukraine l'attendait donc avec impatience.
311 voix contre 112, des drapeaux ukrainiens face aux huées des républicains. Pour une enveloppe de presque 61 milliards de dollars, un vote voulu par le président Joe Biden qui mettait la pression sur le Congrès, car l'Ukraine est en position défensive depuis des mois, en manque d'effectifs, mais surtout de munitions. Alors grâce à cette aide, les Ukrainiens vont pouvoir se réarmer face à une Russie qui, sans ça, aurait continué de grignoter du terrain, selon Ulrich Buna, analyste géopolitique.
Ça va leur permettre de combler en partie les brèches qu'ils ont sur leur ligne de front, et ça va leur permettre de tenir la ligne en espérant, entre guillemets, des jours meilleurs, aussi bien en termes de recrutement de nouveaux soldats que de capacité à reprendre l'initiative avec des nouveaux matériels qu'ils seront potentiellement capables de produire eux-mêmes.
Avant de recevoir cette aide, le texte doit d'abord être validé par le Sénat la semaine prochaine, puis terminé sur le bureau de Joe Biden à la Maison-Blanche. La livraison des premiers équipements devrait arriver en Ukraine d'ici 2 à 3 semaines.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également réagi sur X. Je cite, « Les alliés transatlantiques sont unis pour soutenir la liberté et la démocratie ». La météo joue un mauvais tour à Donald Trump. Son meeting de campagne a dû être reporté hier en Caroline du Nord en raison d'une tempête. Il s'agissait de son premier grand événement depuis le début de son procès au pénal à New York.
On en vient maintenant à cette volte-face du gouvernement sur la traduction des épreuves du brevet en langue régionale.
Ces épreuves seront finalement traduites cette année en langue régionale pour les collégiens bilingues concernés, annonce de la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. Il s'agit donc d'un sacré revirement de situation. Inès Zegloul.
Et oui, puisqu'il y a à peine 5 mois, un courrier était envoyé au rectorat. Fini les énoncés d'épreuves en langue régionale, acquis pourtant vieux d'une 20aine d'années.
Retraduire en breton l'énoncé français avant de pouvoir commencer à composer.
Impensable pour Eddy Penven, président de Dewey's Braise, l'une de ces associations de parents d'élèves vent debout contre la décision de l'exécutif.
L'ensemble des cours sont faits en langue bretonne. Des Pythagore, des Thalès, des dates historiques, etc. qui sont formulées d'une certaine manière en langue bretonne, qui n'a rien à voir avec le français.
Alors lorsque cette semaine est contre toute attente, le ministère rétropédale.
Un soulagement pour les familles, un soulagement pour les enfants, mais néanmoins, on a bien lu entre les lignes que tout était encore remis en question pour l'année suivante. Donc on reste vigilant.
Car les collégiens ne sont pas à l'abri d'un énième revirement de situation. L'avenir des langues régionales au brevet fera l'année prochaine l'objet de nouvelles concertations.
Et on va en parler d'ici 5 minutes, 8h10 avec notre invité Payot Jorah Jurilli, président de la Fédération des Ikastolas CSKA. Ce sont les écoles basques. Si vous aussi, vous voulez défendre votre langue régionale, appelez tout de suite le 3216.
Plus de télétravail accordé aux fonctionnaires pendant les JO. Les agents publics pourront dépasser le plafond habituel de 3 jours de télétravail par semaine, 10 jours de plus cette année. Les opposants à l'A69 entre Toulouse et Castres se donnent rendez-vous aujourd'hui dans la Ville Rose. Une mobilisation est organisée cet après-midi à 14h pour faire capoter ce projet, un projet jugé injuste, inutile et écocidaire.
RMC 8h05, est-ce que le Stade Brestois dérange ?
Les Bretons sont la grande surprise cette saison de la Ligue 1, deuxième. Ils affrontent cet après-midi le troisième Monaco, un match pour la Ligue des Champions et leur belle saison pourrait agacer certains. La défaite à Lyon avec des décisions arbitrales contestables le week-end dernier avait suscité beaucoup de colère, Xavier Grimaud.
Oui, avec notamment cette phrase du directeur sportif Grégory Lorenzi, on sait très bien que Brest dérange. Une semaine plus tard, à froid, l'entraîneur Éric Roy calme le jeu.
Je ne remettrai jamais en doute l'honnêteté intellectuelle des arbitres. Donc la théorie du complot, bien sûr que je n'y pense pas. Je suis conscient aussi que quelque part, c'est mieux d'avoir Lyon, c'est mieux d'avoir Marseille avec un grand stade, d'avoir Brest. Coupe d'Europe l'année prochaine, c'est pas le truc le plus sexy peut-être pour eux, quoi.
Éric Roy ne vise donc pas les arbitres, mais plutôt
peut-être l'environnement, l'institution Fédération Française de Football, la Ligue Professionnelle de Football. On essaiera d'être sexy sur le terrain. À défaut d'être sexy pour les gens qui font le foot français.
Mais si les Brestois se victimisent, ils peuvent compter sur le soutien des entraîneurs de Ligue 1, notamment Pierre Sage, le coach lyonnais particulièrement élogieux.
Au contraire, je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de sympathisants et je fais partie de ceux-ci. J'espère que cette équipe va se qualifier en Champions League. Elle rend honneur à ce que devrait être ce sport selon moi, c'est-à-dire quelque chose qui est spectaculaire, quelque chose où il y a des buts. S'il y a une équipe à aller voir jouer, je vous conseillerais d'aller voir Brest.
Et une victoire face à Monaco aujourd'hui serait encore une preuve supplémentaire que Brest est à la place qu'il mérite.
Un coup d'envoi de cette rencontre à 17h05 à suivre sur RMC. Les 100 € hier se sont imposés 1-0 face à Clermont. Le derby breton entre Nantes et Rennes a tourné à l'avantage du Stade Rennais. Victoire 3-0. Classement Lens est 6e ce matin et compte 4 points d'avance sur Rennes 7e. Clermont et Lanterne Rouge. Nantes est 14e. Puis place au tournoi des 6 nations féminins. 4e journée au programme. L'équipe de France 2e affronte le dernier, le Pays de Galles à 16h15 à Cardiff. Les Anglaises se sont imposées hier 88-10 face à l'Irlande. Elles confortent leur place de leader.
Et puis les cerfs volants envahissent pendant 7 jours le ciel de Berck-sur-Mer.
Les rencontres internationales du cerf-volant ont commencé hier. Des centaines de cerfs-volistes venus des quatre coins du monde sont rassemblés pour partager leur passion et pour certains disputer une compétition sportive. Et chaque année, les visiteurs sont au rendez-vous, l'occasion aussi de rencontrer de véritables passionnés comme Jean-Paul Morin qui participe à l'événement pour la 22e fois. Chloé Lagadou l'a rencontré hier.
Face au vent, les yeux plissés derrière ses lunettes de soleil, Jean-Paul surveille ses cerfs-volants flotter dans les airs, un vaisseau spatial de 8 mètres et une boussole.
Alors là, les conditions sont un peu extrêmes. Le vent, il souffle vraiment très très fort.
Mais pas de quoi arrêter ce passionné de la première heure.
J'en ai toujours fait, petit, on en faisait en papier. Et maintenant, j'ai des jouets pour les grands. C'est que des cerfs-volants de science-fiction, mais parce que j'adore ça. J'ai des Stormtroopers, j'ai Yoda.
Et tous ces personnages, Jean-Paul les confectionne lui-même de A à Z depuis 30 ans. Dans son garage transformé en atelier.
C'est très très artisanal, c'est-à-dire du dessin en passant par la maquette, en passant par la découpe, la couture, je fais tout moi-même.
Temps de réalisation entre 7 et 8 mois pour une pièce et certains de ces cerfs-volants mesurent jusqu'à 22 mètres de long. Mais ce qui plaît le plus à Jean-Paul...
C'est ce côté, quelque part, l'âme d'enfant qui reste, c'est l'imaginaire. Ça nous fait voyager.
Et ce passionné n'a pas fini de faire travailler son imagination. Il réfléchit déjà à une nouvelle création qui rejoindra sa collection dans quelques mois.
Un reportage de Chloé Lagadou. Cette 37e édition se déroule jusqu'au 28 avril à Berck-sur-Mer.
Du vent dans les voiles.
Oh.
Oh oui, oui, oui. Bon, écoutez, on entend de temps en temps, une fois par-ci, une fois par-là, ça marche pas. De toute façon, vous êtes sur RMC et puis voilà. Merci Clément.